Nous allons reprendre, si vous voulez bien, pour la deuxième séance de ce séminaire, après la très belle séance de la semaine passée avec Yves Bonnefoy. Notre invité aujourd'hui est Rémi Brague. Alors, Rémi Brague est connu comme un philosophe, spécialiste de la philosophie médiévale, arabe et juive, comme connaisseur de la philosophie grecque. Alors vous allez demander pourquoi Baudelaire ? Pourquoi nous parle-t-il de Baudelaire ? Il est professeur à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, à côté d'ici, et à la Ludwig-Maximilian-Universität de Munich. Et il est membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Donc, c'est pas tout près de Baudelaire. Et ses recherches actuelles portent sur la comparaison entre le christianisme, le judaïsme et l'islam. Mais il a publié, il n'y a pas très longtemps, un livre qu'il m'avait envoyé, intitulé « Images vagabondes, essai sur l'imaginaire baudelairien » aux éditions de La Transparence 2008. Et c'est pourquoi j'ai pensé que c'était bien de renouveler les baudelairiens et de faire parler, non pas un amateur, puisque Rémi Brague est un savant, mais quelqu'un qui peut rafraîchir notre lecture de Baudelaire en venant d'un autre horizon. Et je crois que c'est toujours, toujours utile, c'est toujours bien pour nous que d'entendre ce qu'un voisin et un ami fait de nos textes préférés, voir comment ça peut renouveler ce que nous avons à en dire. Et Rémi Brague a proposé comme titre « Bohémien en voyage » et je suppose donc que qu'il nous parlera du poème des Fleurs du Mal qui porte ce titre. Je crois que ce titre figure sur le programme du séminaire qui est affiché et j'imagine que vous avez tous relu attentivement « Bohémiens en voyage » pour faire une préparation avant de venir à ce séminaire ce soir. Voilà, vous avez la parole.
Merci infiniment du grand honneur qui m'est fait de parler dans cet endroit prestigieux et à ce séminaire plus prestigieux encore. Je me suis effectivement posé la question, qu'est-ce que je fais ici ? Vous avez commencé par m'introduire comme ça. Et effectivement, je ne suis pas du tout spécialiste de Baudelaire, je ne suis pas du tout spécialiste de littérature en général, je ne suis encore moins poète. Vous m'avez retiré un argument, et là j'aimerais vous corriger, je suis un amateur, si, tout à fait, à ce double sens, que si je me suis permis d'écrire ce petit livre sur Baudelaire, c'est parce que j'aime Baudelaire. Bon. Donc, un amateur est un petit peu un amoureux, je voulais lui rendre hommage. Le revers de la médaille étant qu'un amateur peut tout simplement taper à côté ou enfoncer des portes ouvertes. Peut-être quelques mots pour situer ce que je vais dire. Je projetais initialement d'écrire un livre sur la notion d'image en général. J'avais pensé à un chapitre sur Baudelaire. Je pensais peut-être écrire également sur la notion de figure chez Pascal et d'autres choses. Et puis bon, le projet est tombé à l'eau, je suis tourné vers d'autres choses. Le chapitre sur Baudelaire a lui-même pris des dimensions un petit peu excessives et il est resté dans mes tiroirs jusqu'au moment où quelqu'un à qui je voudrais rendre hommage ici et qui s'appelle Cyril Haber, qui a fondé et dirige avec un professionnalisme impressionnant les éditions de La Transparence, Il a eu donc la gentillesse de me le demander, non sans avoir effectué un énorme travail d'édition. Or, ce livre a été écrit il y a 30 ans, et publié donc il y a peu. C'était une époque où j'avais été très marqué par la lecture du livre de Walter Benjamin sur Baudelaire, qui a été traduit depuis, ainsi que par la lecture du livre d'un autre Allemand, Hugo Friedrich, le romaniste de l'université de Fribourg en Brisgau. Le livre s'appelait « La structure du lyrisme moderne ». Il a été traduit en français sous un titre un petit peu différent que je ne sais plus. Donc, j'ai essayé d'aborder Baudelaire sous l'aspect de la notion d'image. Je l'ai fait en philosophe, parce que on ne se refait pas. J'ai essayé d'éviter les deux écueils les plus fréquents des philosophes lorsqu'ils ont l'outrecuidance d'écrire sur des écrivains. D'une part, faire de l'auteur qu'ils étudient leur propre précurseur, en essayant de retrouver en lui des concepts qui sont les leurs. Ou d'autre part, inventer une méthode herméneutique de leur cru et en faire l'essai sur la victime la plus proche qui sera l'écrivain sur lequel on leur a demandé d'intervenir. Je pense par exemple au Flaubert de Sartre qui répond exactement à ce souci. Alors ça produit, les deux méthodes ont produit des choses tout à fait respectables et même parfois tout à fait admirables. En ce qui me concerne, j'ai simplement essayer d'appliquer la méthode la plus plate qui puisse être, celle que j'ai apprise en Cagne il y a quand même pas mal de temps, la méthode de l'explication de texte, mais en prenant au sérieux la récurrence de certains termes sous la plume de Baudelaire, termes dont j'ai pensé qu'ils avaient la valeur de quasi-concept. Donc, je vais essayer d'appliquer cette méthode au sonnet, cette méthode qui n'est pas la mienne, qui est très banale, au sonnet Bohémiens en voyage. Pourquoi ce sonnet plutôt qu'un autre poème ? Eh bien, parce que dans ma recherche sur les images, je suis tombé, ça a été mon point de départ chez Baudelaire, sur une entrée d'un de ses journaux intimes, Mon cœur mis à nu. C'est au paragraphe 38, dans lequel il écrit la chose suivante: glorifier le culte des images, entre parenthèses, ma grande, mon unique, ma primitive passion. Alors, pour quelqu'un qui s'intéresse aux images, c'était évidemment pain béni que de trouver cette référence au culte des images. Mais Baudelaire n'a pas plutôt parlé du culte des images comme de son unique passion. Unique, il n'y a donc pas deux. Mais il en ajoute une autre, dans un parallélisme strict: glorifier le vagabondage et ce qu'on peut appeler le bohémianisme. Il écrit cela avec une majuscule, et il explique: culte de la sensation multipliée s'exprimant par la musique. Il ajoute en référé à Liszt. Le musicien hongrois venait en effet de publier une brochure sur le bohémianisme en musique à laquelle Baudelaire fait allusion ailleurs. Donc nous sommes en présence d'une passion unique qui n'est pas plutôt affirmée unique qu'elle se dédouble et qu'elle introduit un concept nouveau, en tout cas c'est un néologisme, un terme nouveau, le bohémianisme, ce qu'on peut appeler le bohémianisme. Où trouver des renseignements sur ce que Baudelaire entend par bohémianisme ? Eh bien, il était naturel de se tourner vers le sonnet, qui s'appelle Bohémiens en voyage. Alors le voici, donc c'est le 13e sonnet des Fleurs du Mal. Sa composition est tout à fait simple. Hein. On a deux, il y a trois phrases en tout, n'est-ce pas ? Le premier quatrain forme une phrase avec comme respiration de virgule, et puis bon, un point à la fin. Deuxième quatrain, même chose. Hein, une seule phrase terminée par un point et avec au milieu, dans un endroit tout à fait naturel, hein, au milieu presque géométrique, une virgule. La troisième et dernière phrase est formée par les deux tercets, avec une respiration forte, le point et virgule, après le second vers du premier verset. Et puis, alors là, ensuite, il ajoute à cela une cascade de virgules, il y en a six, si je les ai bien comptées. Bon. Virgule, qui rythme, en fait, ce qui a l'allure d'une précipitation. De même qu'il y a un redoublement et une augmentation, eh bien, on a là un mouvement qui se presse vers la fin. Si belle qui les aime augmente ses verdures, virgule, fait couler le rocher plus vers le dessin, tout cela forme un tout. Donc on commence par, disons, deux descriptions assez statiques, assez tranquilles, et puis bon, le mouvement s'accélère et débouche, bon, comme dans tout sonnet qui se respecte, sur un dernier vers qui doit contenir quelque chose de particulièrement intéressant, par le concetto. Le premier quatrain est au passé composé, c'est une sorte de parfait, c'est la description d'un état présent, mais qui est le résultat d'une action passée, une mise en route qui s'est produite hier. Le deuxième quatrain, bon, ben, décrit le présent. On voit défiler, si je puis dire, du point de vue d'un spectateur tranquille, la scène. Et puis, bon, là, on a cette accélération de la cadence. Bon. Le sonnet est inspiré, c'est bien connu, par une gravure de Jacques Callot, qui a été, il s'agit d'une série de quatre eaux-fortes, qui date de 1623-1624, quatre eaux-fortes dont chacune est accompagnée, comme c'était la pratique à l'époque, et ça allait rester au siècle suivant, d'un distique explicatif. Alors j'ai choisi des quatre, ces deux-là, parce que il montre justement les bohémiens en voyage, en déplacement, alors que la première image les montre au départ et la quatrième à la halte. Donc le fait que Baudelaire ait choisi de se concentrer sur ces deux images montre qu'il veut attirer notre attention sur le mouvement. Il y a un déplacement. Il n'y a pas de halte, mais il y a une sorte d'avancée constante qui eh bien sera ma propre méthode, si je puis dire. Je vais essayer de montrer que le poète va du premier vers au dernier vers, ce qui bon, est tout à fait normal, mais qu'il forme, pour ainsi dire, un arc dans lequel les deux images lumineuses, deux images visuelles, les prunelles ardentes et les ténèbres futures, qui semblent en être le contrepoint parfait, eh bien, sont unies par une logique secrète. Enfin, secrète que je vais essayer de dégager. Alors, beaucoup de choses sont contenues déjà dans la modification que Baudelaire a fait subir à son titre, puisque « Bohémiens en voyage » est le titre de la version donc, du recueil, publié dans le recueil « Les fleurs du mal », Le poème avait d'abord été composé, donc en 1852, sous le titre « La caravane des bohémiens ». La notion de caravane était particulièrement en vogue, si je puis dire, à l'époque, puisque deux poètes, et des plus célèbres, deux poètes français, avaient chacun écrit leur caravane, si l'on peut dire. Je crois en 1836, pardon, en ce qui concerne Alphonse de Lamartine, La caravane humaine, qui est une, tout à fait alors dans l'esprit un peu humanitaire dont on vient de dire avec quel talent que Baudelaire éprouvait devant cela un sentiment de crispation et d'exaspération. Bon, c'est l'histoire de l'humanité engagée dans un progrès vers quelque chose de futur et qui devrait être magnifique. À ce poème très optimiste, Théophile Gautier, donc Théophile Gautier, le dédicataire des Fleurs du Mal, avait répondu, si je me souviens bien, en 1838, enfin pas tellement longtemps après Lamartine, par un poème appelé lui aussi La caravane, et dans lequel il disait que le but de l'aventure humaine, l'endroit vers lequel se déplaçait cette caravane, c'était tout simplement le cimetière. Et donc que les jolies choses dont Baudelaire nous faisait rêver étaient vaines. Alors Baudelaire ne peut pas avoir ignoré ces deux poèmes, il ne peut surtout pas avoir ignoré, disons, le problème qui est posé par, finalement, le sens ou l'absence de sens de l'aventure humaine, de l'histoire, pour faire bref. Et ce poème, car la caravane des bohémiens pourrait être interprétée en ce sens. Mais « Bohémiens en voyage », donc, n'a pas conservé le titre original et insiste simplement sur le fait qu'il s'agit de bohémiens. Le mot « caravane » nous introduisait dans des espaces un petit peu orientalistes, avec tous les fantasmes que cela suscite. Là, nous sommes devant une scène que l'on pourrait très bien voir depuis les fenêtres, par exemple, du château de Moulinsart. Dès le début, Baudelaire nous tente, pour ainsi dire, en parlant d'une tribu prophétique. Le prophétisme, c'est ce sont les plumes dont bien des poètes de l'époque étaient tentés de se parer. Eux qui concevaient souvent leur mission comme consistant à voir plus loin que la tribu, si l'on peut dire, à voir plus loin que le commun des mortels et à voir s'esquisser dans un futur à moitié rêvé le paradis promis à l'humanité en son progrès irrésistible. Et Baudelaire joue sur cette idée de prophétisme par des allusions tout à fait précises à l'Ancien Testament, devant au passage de la tribu prophétique, le rocher se met à couler, scène bien connue de Moïse frappant le rocher de son bâton et en faisant couler une source. Le désert fleurit, ça c'est une scène, une image des temps messianiques que l'on trouve à deux reprises dans le livre d'Isaïe. Et on a l'impression donc que le prophétisme correspond à une sorte de, disons, de sécularisation de la conception biblique de l'histoire. Eh bien, Baudelaire lui-même donne implicitement un contrepoint à cette impression tentante, dans la mesure où cette tribu n'est menée par personne. Il n'y a pas de Moïse. Le rocher coule tout seul, ou le fait sous l'impulsion d'une déesse païenne, qui est Cybèle, la déesse de la végétation. Le désert fleurit sans annoncer aucun messie. Donc on a, si vous voulez, le mobilier prophétique de l'Ancien Testament, mais vidé de ce qui lui donne son orientation. Baudelaire lui-même se reconnaît bohémien lorsqu'il écrit, c'est dans un autre passage des Journaux intimes, c'est dans le chapitre 15 de Fusée, « Moi qui sens quelquefois en moi le ridicule d'un prophète. » Le ridicule d'un prophète. « Je suis comme un homme dont l'œil ne voit devant lui qu'un orage, où rien de neuf n'est contenu, ni enseignement ni douleur. » Alors, il y a un orage, mais ça n'est pas, ce ne sont pas le tonnerre et les éclairs dans lesquels s'effectue la théophanie biblique. Cet orage ne contient pas d'enseignement, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il en pleuve l'enseignement par excellence, en hébreu la Torah. Il n'y a pas de colonne de nuée, et Israël n'est plus, comme le suggère un autre poème des Fleurs du Mal, le voyage, et l'expression revient dans l'article de Baudelaire sur Richard Wagner et le Tannhäuser, Israël n'est plus que le juif errant. Le ciel est vide de tout signe. Ce qu'il contient, c'est une absence. Il promène sur le ciel des yeux appesantis par le morne regret des chimères absentes. Il n'y a rien à voir dans le ciel. Et pourtant, il y a une sorte de prophétisme. Alors, quel est-il ? Qu'est-ce qui caractérise le prophétisme de cette tribu ? Eh bien, elle est caractérisée par cette bizarre expression, la tribu prophétique aux prunelles ardentes. Je prends prunelles comme une métonymie pour désigner la vue d'une manière générale. Mais on peut également prendre le mot dans un sens tout à fait rigoureux, c'est le trou, n'est-ce pas, par lequel, nous dirons par lequel entrent les rayons lumineux pour frapper la rétine. Mais Baudelaire semble s'être inspiré d'une doctrine qui est bien attestée dans la philosophie ancienne et médiévale, c'est pourquoi... J'ai quand même un tout petit peu de légitimité ici, mais vraiment par raccroc. C'est la doctrine selon laquelle la vision est due à la présence dans l'œil de lumière. L'œil, enfin le globe oculaire, était censé, c'est une doctrine que vous trouvez dans le Timée de Platon, par exemple, et que vous trouvez finalement dans l'ensemble de la pensée occidentale jusqu'à la Révolution introduite par un grand arabe Al-Hassan, qui montre justement que c'est du dehors que nous vient la vision, et non pas de cette sorte de lampe que constituerait l'œil. vous trouvez cette doctrine dans Aristote, qu'il l'appuie par une expérience tout à fait sensée. Lorsque vous fermez les yeux, que vous appuyez sur le globe oculaire, vous voyez de la lumière. Bon, alors il ne connaissait rien d'une aire optique et de ces choses-là, mais bon, il avait conclu ce qu'il pouvait conclure à partir de son expérience très limitée de ce que c'était que la vision, à savoir ben, il y a dans l'œil de la lumière, et cette lumière est d'une certaine manière projetée sur les objets que nous voyons. Eh bien, Baudelaire fait allusion à cette doctrine qui n'est plus pour lui, bien entendu, qu'une métaphore et pas une explication physiologique de la vision, lorsque, par exemple, il parle de ses yeux pleins de flammes. C'est dans un autre poème des Fleurs du Mal, Rêve parisien, vous savez, où lui apparaît un univers entièrement minéral et un univers qui se révèle à ses yeux pleins de flammes, devant lesquels une sorte de Jérusalem nouvelle, une ville idéale, toute faite de pierres précieuses, qui brillerait d'un feu personnel. L'expression d'un feu personnel est de Baudelaire. On a l'impression qu'une telle vision rendrait superflu les astres. Toute la lumière viendrait de l'œil. Et on trouve dans plusieurs endroits chez Baudelaire une double attitude. D'une part, une attitude négative envers les lumières étrangères, si je puis dire, envers les étoiles. Regardez, par exemple, dans le sonnet, oui, je crois que c'est un sonnet, Obsession. Il dit que la nuit lui plairait, et là je commence la citation, sans ces étoiles dont la lumière parle un langage connu. C'est ça qu'il reproche aux étoiles, c'est de ne pas être sa propre poésie. La nature parle déjà dans cette écriture indéchiffrable que l'on trouve dans le psaume 19. Les cieux chantent la gloire de Dieu, et puis ensuite l'évocation de cette écriture des étoiles. Alors c'est de cela que Baudelaire ne veut pas. Baudelaire voudrait une source lumineuse qui serait elle-même invisible, qui rendrait visible, mais qui ne serait pas elle-même susceptible d'entrer dans le champ du visible. Ce serait un soleil noir, ou ce seraient des étoiles noires, deux expressions qui se trouvent. Alors les étoiles noires, c'est dans le spleen de Paris, dans la chambre double, et le soleil noir, c'est également dans un autre poème en prose, le numéro 36 du spleen de Paris, à savoir le désir de peindre. Cette représentation nous permet de voir quelques rapports entre les prunelles ardentes, donc qui émettent la lumière, qui contiennent ce feu qui brûle sans consumer. C'est cette sorte de buisson ardent intégré au corps humain qu'est le globe oculaire, enfin que sont les globes oculaires, et les ténèbres futures. Pourquoi faut-il des ténèbres futures ? Eh bien, il faut des ténèbres futures pour qu'elles puissent constituer l'écran sur lequel se détacheront les images que le poète tirera de son propre cru et de nulle part ailleurs. Je remarque d'ailleurs que cette cette sorte de cinématographie avant la lettre est décrite par Baudelaire à nouveau dans le poème Obsession, dans les vers suivants, les ténèbres, je cite, hein, les ténèbres sont elles-mêmes des toiles où vivent, jaillissant de mon œil par milliers, des êtres disparus au regard familier. Donc les étoiles n'apparaissent pas sur le fond du ciel obscurci, mais elles sont projetées par l'œil comme par une sorte de lanterne magique. Il est bon de remarquer d'ailleurs que Baudelaire faisait preuve d'un intérêt très vif, non pas pour le cinéma, puisque bon, il n'existait pas encore, mais pour ses ancêtres. Il parle à plusieurs reprises de phénomènes optiques, de la stéréoscopie, du phénakistiscope, c'est comme ça que ça s'appelait, de la toupie dont les couleurs se fondent lorsque elles tournent à une certaine vitesse, et de la fantasmagorie. C'était pour lui visiblement quelque chose de significatif. Et significatif parce que cela correspondait à sa conception de son propre rôle, sa conception du rôle du poète. Que se passe-t-il au passage de la tribu en question ? Eh bien, ce qui me semble décisif, c'est ce que le grillon et ce que Cybèle, donc un animal et une déesse, du sous-humain et du surhumain, produisent tous deux, à savoir une augmentation, n'est-ce pas ? Le grillon redouble sa chanson, ça pour les sensations auditives, et pour ce qui est du visuel, Cybèle augmente ses verdures. Il s'agit là quasiment de termes techniques. Je pense en particulier au verbe augmenter qui désigne par exemple les effets de la drogue. Drogue dont je rappelle qu'elle n'a pas pour intérêt de procurer des sensations rares, mais de porter l'homme à un état tel qu'il devient, pour ainsi dire, naturellement poète. Alors le vin peut faire ça, le haschich y arrive aussi, sans doute moins bien que le vin. Baudelaire compare les deux aux désavantages du vin. Et ce qui se passe dans la nature est ce que le poète doit faire. Vous remarquerez d'ailleurs que l'humain et le naturel sont décrits de que l'humain est décrit d'une manière qui est parallèle, qui ne se distingue pas radicalement des phénomènes naturels. Il ne s'agit pas d'enfants, il s'agit de petits. Il ne s'agit pas de saints, il s'agit de mamelles. Ce sont des termes que l'on emploie plutôt pour les animaux que pour les hommes. Vous remarquerez également que les humains sont blottis de la même façon que le grillon est tapi au fond de son réduit sablonneux. On a l'impression que l'humain et l'animal, tout ce qui est vivant, si vous voulez, est raboté, placé sur le même plan et à un niveau inférieur par rapport à cette exaltation des facultés humaines qui est signifiée par la prophétie, qui élève l'homme au-dessus du niveau de l'humain. Vous remarquerez également que Prunelles ardentes et armes luisantes forment un parallèle d'autant plus remarquable que, outre la rime, on trouve les mots au même endroit, à la fin de chacun des premiers, des deux quatrains. Avec cette particularité que ces armes luisantes, donc qui ont une propriété voisine de celle des prunelles, sont destinées au même type de destruction que les prunelles. Les prunelles ardentes sont des choses qui brûlent. Les armes sont des choses qui tuent et qui sont faites pour tuer. Eh bien, les armes luisantes ne sont pas telles simplement parce qu'elles auraient été bien fourbies, mais parce que elles sont chargées d'effectuer leur œuvre destructrice de la même façon que le feu des prunelles. Vous remarquerez également que promenant sur le ciel, voilà un verbe tout à fait remarquable qui éclaire la signification de ce voyage. Une promenade n'a pas de but. Une promenade ne constitue pas un progrès tel que Lamartine le rêvait vers une situation idéale de l'humanité. Il s'agit d'une promenade qui n'a d'autre but que le déplacement. Et c'est un verbe qui, là aussi, a, dans tout le reste de l'œuvre de Baudelaire, lui et ses équivalents, comme flâner, par exemple, une signification particulièrement remarquable. C'est l'idée d'un déplacement sans but, d'une errance. Il est possible que Baudelaire se soit laissé influencer d'ailleurs par les deux... Ne voilà pas de braves messagers qui vont errant par pays étrangers. Messager a sans doute résonné dans l'esprit de Baudelaire, qui en a fait des prophètes, errant, la promenade, et vous remarquerez là aussi, ces pauvres gueux pleins de bonne aventure ne portent rien que des choses futures. On a le même adjectif, futur, qui a sans doute parlé à Baudelaire, qui a remplacé les... qui a remplacé les choses par quelque chose de beaucoup plus précis, à savoir les ténèbres. Alors, qu'est-ce que signifie poème? Eh bien, que s'il y a prophétisme, c'est un prophétisme sans révélation. Et s'il y a une fonction du poète, eh bien, je la vois plutôt du côté de la destruction que de celui de la construction, sans parler de l'édification. Il s'agit plutôt de faire apparaître l'empire familier des ténèbres futures. Alors, ces ténèbres ne sont pas uniquement celles auxquelles le poème de Gautier promettait l'humanité, à savoir l'obscurité définitive du cercueil et du caveau, mais ce sont les ténèbres qui permettent aux poètes de faire apparaître des images. Pourquoi ces ténèbres constituent-elles un empire familier? Alors, le mot familier vous est familier, et vous est également familière la nuance tout à fait particulière qu'il prend chez Baudelaire et qui a été remarquée par Michel Léris, sans doute après et en tout cas avant beaucoup d'autres. C'est un texte que j'ai trouvé dans Walter Benjamin. Je crois qu'il ne donne pas de référence, c'est sans doute une remarque orale de Léris à Benjamin. Léris faisait remarquer que Familier avait chez Baudelaire à peu près la nuance opposée à celle que l'on attendrait. Vous, si vous remplacez dans chaque occurrence où Baudelaire emploie l'adjectif familier, un adjectif comme inquiétant, ça marche très bien. Bon. Alors, pourquoi ces ténèbres sont-elles appelées par familières ? Eh bien, sont-elles appelées du terme de familier ? Eh bien, parce que le familier, chez Baudelaire, désigne non pas ce par rapport à quoi nous nous sentons en famille, ce par rapport à quoi nous nous sentons à l'aise, mais ce à quoi nous avons l'impression que nous n'allons pas réussir à échapper, ce que nous ne connaissons que trop. Ce qui nous parle un langage familier, c'est un langage auquel, justement, nous aimerions bien être étrangers. Bon, je crois que le temps est à peu près écoulé et cela tombe bien puisque je crois que c'est à peu près ce que je voulais dire, sauf peut-être une conclusion, à savoir que le bohémianisme tel que Baudelaire le conçoit, et je crois que le verbe concevoir doit être pris ici, non sans quelque rigueur, répond à l'attitude de Gautier, qui était celle du bohème. Le bohème vit en marge d'un ordre par rapport auquel il prend des libertés, mais sans aller plus loin. Le bohémien, tel que Baudelaire le conçoit, est au contraire quelque chose de beaucoup plus rigoureux et qui indique une tâche pour le poète. Et en ce sens, le poème « Bohémiens en voyage » est une sorte d'art poétique. Un art poétique que l'on peut lire, évidemment, en essayant de ne pas trop céder à l'illusion rétrospective, que l'on peut lire comme anticipant certaines réflexions de Mallarmé, grand lecteur de Baudelaire, sur la poésie comme destruction, comme ce qui avance comme un incendie, ce qui détruit ce dont elle parle. J'ai trouvé dans Hugo Friedrich, auquel j'ai fait allusion au début, une phrase par laquelle le philosophe espagnol Ortega y Gasset, dans une œuvre publiée en 1925 sous le titre « La déshumanisation de l'art », phrase dans laquelle Ortega écrit « L'arme lyrique, luisante ou non, attaque les choses naturelles, les blesse ou les tue. » Eh bien, il me semble que les prunelles ardentes de ces incendiaires en voyage, les armes luisantes de ces hommes, sont la métaphore de cette poésie qui construit dans la mesure même où elle détruit. Je vous remercie de votre attention.
Eh bien, merci pour cette très belle, séduisante et suggestive explication de ce poème. Je voudrais vous poser première question, dans cette réflexion sur les yeux, sur l'optique, sur tout ce que vous avez évoqué à propos de l'optique, y compris le cinéma, je me demandais pourquoi avoir évité la photographie, qui est l'objet dont Baudelaire... Ah, excusez-moi. Je me demandais dans cette évocation d'un certain nombre d'appareils optiques, depuis l'œil jusqu'au cinématographe, en passant par la fantasmagorie, tous objets qui sont, en effet, à part le cinéma, présents dans des textes de Baudelaire. Pourquoi avoir évité la photographie et le rapport avec la réflexion de Baudelaire, donc sur la chambre noire, par exemple, qui pourrait peut-être être évoqué dans ce contexte, et en tout cas auprès des objets que vous avez évoqués.
Alors, effectivement, vous avez mis le doigt sur un point aveugle, pour rester toujours dans l'optique, de ce que j'ai essayé de dire. Je n'y avais tout simplement pas pensé, pour des raisons qui demanderaient une analyse de psychologie des profondeurs. Il me semble que Baudelaire était plus intéressé par les aspects mouvants de l'image, plutôt que par cette technique qui, qu'elle le veuille ou non, enfin, à l'époque elle devait le faire, figeait, immobilisait son objet. C'est pas une interprétation des images de Callot, mais enfin qu'il ait choisi de focaliser, restons dans l'optique ou dans la photographie, sur en voyage, sur cette tribu qui s'est déjà mise en route depuis hier et qui n'a peut-être pas cessé de se déplacer, me semble pointer dans cette direction. Mais c'est vrai que je n'avais tout simplement pas pensé à ça, et c'est quand même assez énorme.
On rapprochait un certain nombre des allusions que vous avez pu faire, notamment obsession, aux toiles, etc., à des scènes liées à la photographie. Dans ce dernier vers sur l'empire familier des ténèbres futures, on pourrait peut-être l'interpréter du côté de tout ce qui est de la photographie et de la mort.
Oui, ce qui me semble intéressant dans l'adjectif futur, c'est justement le contrepoint, les ténèbres futures, c'est le contrepoint qu'il représente par rapport à cette espèce de tentative de la nature et de l'humain. Ce sont des mamelles, n'est-ce pas ? C'est la reproduction qui est en jeu. On a l'impression que la nature n'est provoquée, est provoquée d'autant plus décisivement à une exaltation de soi, à une multiplication, encore un verbe très baudelairien, à une multiplication de soi, que pour pouvoir n'en être que plus triomphalement nié. Je vois ce poème comme extraordinairement destructeur, si vous voulez. Il y a quelque chose qui est ouvert, c'est devant ces voyageurs pour lesquels est ouvert, l'empire. C'est donc on voit un immense domaine, mais ce sont des ténèbres. Le poète, s'il s'agit bien d'un art poétique, ce qui bien entendu est de ma part plutôt de l'ordre du pari que d'autre chose, le poète n'est pas celui qui doit apporter la lumière. Pour cela, Hugo le faisait, pour dire ce genre de choses, Hugo, dont Baudelaire n'a pas arrêté de se moquer, sauf dans un article, visiblement, il parle avec sa langue dans sa joue. Mais Hugo aurait dit, la tâche du poète, c'est d'apporter la lumière. Baudelaire répond, c'est au contraire de répandre les ténèbres. C'est un poème obscurantiste, au sens tout à fait neutre du terme. Pour lui, les ténèbres sont plus... Enfin, peut-être donnent plus à voir que la lumière.
Est-ce que c'est apporter les ténèbres ou... Enfin, moi, je vois dans ce dernier vers, l'empire familier des ténèbres futures, comme une image qu'on retrouve, une image justement qu'on retrouve assez souvent chez Baudelaire, qui est cette sorte d'au-delà de l'horizon, enfin, une sorte d'horizon, d'horizon perdu. De, enfin, dans le livre que j'avais fait sur Baudelaire, j'avais parlé de cet infini de platitude. C'est, parce que quand je lis Les Bohémiens en voyage, je pense enfin, peut-être aussi au poème en prose chacun sa chacune, chacun sa cimère, à cette sorte d'errance vers un horizon plat, cette sorte d'au-delà de l'horizon.
Oui.
Et l'empire familier des ténèbres futures, enfin, c'est ça qu'il évoque.
Pour oui, je suis heureux que vous ayez manifesté, que vous ayez rappelé le poème en prose sur les chimères, enfin, chacun la sienne ou chacun sa chimère, parce que je n'ai pas rendu justice suffisamment, je crois, à cette idée du morne regret des chimères
oui.
absentes,
oui.
Vers pour lequel je ne suis pas au clair, si je puis dire, parce que j'ai regardé évidemment les usages de ces mots. Regret est très rare chez Baudelaire. Dans les fleurs, il y en a trois. Enfin, regret et regretté, dont celui-ci, bien entendu, et chaque fois, enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé quelque chose de très accentué. Les chimères ne sont pas non plus un thème très fréquent chez lui. Alors, il y a effectivement ce poème dans lequel il y a là aussi l'idée d'un voyage, l'idée d'un itinéraire, et on ne sait pas trop vers où. Alors, ces gens-là qui portent une espèce d'énorme fardeau sur les épaules, mais qui ne semblent pas du tout s'en inquiéter ou le regretter, au contraire. Bon, alors là, les chimères sont absentes. Alors, qu'est-ce que peut signifier cette absence des chimères? Qu'est-ce que c'est que... Est-ce qu'il faut considérer que le ciel est vide? Mais de quoi ou de qui le ciel a une minuscule ici? Bon, ça ne peut pas être directement considéré comme le séjour du divin. Ce qui me semble remarquable, c'est justement que, au contraire de l'image lamartinienne ou hugolienne du prophète qui voit justement plus haut que les autres, qui voient vers le ciel, majuscule ou minuscule, d'ailleurs étant de ce point de vue-là indifférent, pour y voir quelque chose qui va se produire et qui est merveilleux, l'avenir radieux, si vous voulez, ou les lendemains qui chantent. Bon. Ben ici, il ne s'agit pas d'aller vers le ciel, mais simplement de promener le regard et de le promener sur le ciel, ce qui est assez amusant. Normalement, nous sommes plutôt sous le ciel que sur le ciel. Alors, promener sur le ciel, et pas dans le ciel, et pas vers le ciel, avec une sorte de dédain, n'est-ce pas ? Enfin, on ne scrute pas, mais enfin, on laisse voguer ou vaguer son regard sur le ciel comme sur quelque chose que l'on regarde de haut à tous les sens du terme. Alors pourquoi leurs yeux sont-ils appesantis ? Ben je ne sais pas. Je ne sais pas. La méthode que j'ai essayé de suivre, qui est celle qu'on m'a enseignée en Cagne, je le répète, essaye de faire justice à tous les mots. Ben, il y en a qui résistent. Par exemple, pourquoi ils se sont mis en route hier? Je me suis posé la question. La tribu hier s'est mise en route. Alors, ça veut dire qu'ils ont déjà traversé une nuit. Bon, forcément, hein, Sans ça, ça serait ce matin, c'est mise en route ou quelque chose comme ça. Alors bon, ils ont déjà fait l'expérience du jour et de la nuit. Bon.
Au début, vous avez évoqué le thème du juif errant.
Oui, qui est présent une ou deux fois.
Oui, avec la tribu brévélique, qui rattache, on pourrait dire, ce poème au thème de la mort impossible. Le juif errant est condamné à ne pas mourir.
Oui.
Et cet empire familier des ténèbres futures, pour moi, c'est un peu ça. C'est ce thème qui avait été mm-hmm. aussi bien étudié par Jean Starobinski de la mort impossible.
Oui, ou je me souviens de textes de Blanchot assez remarquables à ce sujet, en particulier sur cette nouvelle de Kafka qui s'appelle Le chasseur Gracchus. Mais bon, ça, je ne sais pas si on peut lire ça dans Baudelaire.
Enfin bon, à partir du moment où vous évoquez le juif errant, c'est un peu ça.
Je l'ai évoqué simplement parce que les allusions bibliques
sont là.
C'est indéniable. Mm-hmm. Mais alors c'est une errance dans, alors c'est pas exactement, enfin c'est un désert, mais dans lequel des miracles analogues à ceux de l'Exode se passent, le rocher qui coule, le désert qui fleurit, ça c'est, donc, comme je l'ai dit, c'est plutôt dans Isaïe que dans le Pentateuque, mais ils ne vont nulle part. Il n'y a pas de ce qui remplace la terre promise, c'est l'empire familier, c'est l'empire des ténèbres futures. C'est un futur sans promesse, c'est un royaume sans, enfin c'est un empire qui n'est pas un royaume. Alors enfin je ne sais pas si Baudelaire, j'ai essayé dans mon bouquin de montrer quelques parallèles, mais bon on n'en trouve pas toujours. Alors, qu'est-ce que fait ce grillon ? Bon, je ne sais pas ce qu'il fait là, le grillon. Enfin, il y a cette idée de la multiplication de la sensation. J'avais trouvé un passage de. Non, ça fait rien, c'est dans du vin et du haschich. Dans le troisième chapitre où il y a un très bel, attendez, je dois avoir ça sur une fiche, c'est ça, certaines boissons, dit-il au troisième chapitre de du vin et du haschich, contiennent la faculté d'augmenter outre mesure la personnalité de l'être pensant. Je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre augmenter ici, c'est pas simplement que c'est pas simplement que je ne sais pas, l'herbe pousse plus dru, mais c'est que la sensation, d'ailleurs justement, il ne dit pas l'herbe, il dit la verdure, c'est-à-dire il choisit ce qui dans l'herbe est visible. Bon, et alors là, le grillon, j'avoue qu'il me résiste. Je ne sais pas s'il y a beaucoup s'il y a de vrais interprètes, de vrais baudelairiens compétents qui ont fait quelque chose du grillon. Alors je refoule la tentation de l'interpréter à partir du verbe griller, mais bon. Non, là, ça serait quand même plutôt de l'ordre du canular. Que de l'herméneutique. Il n'y a pas tellement de grillons chez Baudelaire, ailleurs, je crois. Hein. C'est pas un animal familier, si j'ose dire. Hein.
Non, mais il faut que quelque chose résiste.
Ah ben oui, bien ça, oui. Ça, on y arrive très bien. Et Cybèle également, j'ai trouvé que deux autres occurrences, ça semble être bêtement, si je puis dire, la déesse païenne de la végétation. Bon, il y a un passage où elle est rendu responsable des truffes. Bon. Et puis c'est tout, hein. C'est pas, ça n'est pas un personnage habituel des Fleurs du Mal.
Il faut qu'on y aille. Bon, mais je crois qu'on va vous résister au grillon.